Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui se qualifie avant tout de femme d'aujourd'hui, prête à vous raconter son histoire de vie. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Doha Hassouni, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Doha?
Ça va très très bien, très très bien. Et je suis très contente d'être avec toi.
Merci infiniment, c'est moi qui suis touchée. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être avec nous dans Femme d'aujourd'hui?
Bah parce que je suis une femme d'aujourd'hui, déjà.
Tout à fait. Ça, c'est bien dit. Déjà, le fait d'être une femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'aider à faire le marketing de l'émission. Déjà, argument numéro un, je suis une femme d'aujourd'hui. Bravo.
Oui. Je suis une femme d'aujourd'hui et dans ma vie, je suis passée un petit peu par les différentes phases que certaines femmes peuvent vivre. Donc, j'étais la fille, j'étais l'étudiante, puis je suis devenue l'épouse. Et puis, je suis devenue, j'ai travaillé pendant un moment, donc je suis devenue femme au foyer à un autre moment.
Ouais.
J'ai repris des études en étant maman. Et voilà, pendant tout ce chemin, tout ce voyage, il y a eu des hauts, des bas, des périodes qui étaient plus difficiles que d'autres.
Ouais, ouais.
Et
on va y aller petit à petit.
Ok.
Alors, si on s'arrêtait directement, à la période où vous avez été femme au foyer. Donc, vous avez fait des études, vous avez travaillé, vous avez été une femme indépendante. Qu'est-ce qui vous a amené à être femme au foyer à un moment, à prendre cette décision?
Alors, c'était un changement limite radical dans ma vie parce que j'avais changé de pays. J'avais changé, du coup, je me suis retrouvée seule. J'avais changé de situation, donc je me suis mariée et je suis devenue maman.
D'accord.
Donc, il y a eu plein de changements d'un seul coup et j'avais fait le choix avec mon mari de garder moi-même mes enfants.
D'accord. C'était le premier bébé?
C'est ça. Donc, c'était le premier bébé. Et puis, en fait, j'ai enchaîné. Donc, c'était le premier bébé. Donc, j'ai gardé jusqu'à l'école, donc jusqu'à ses 3 ans. Et donc, quand ma grande fille, elle a 7 ans maintenant, quand elle a eu 2 ans.
Quand elle est rentrée à l'école?
C'est ça. Donc, quand elle a eu plutôt 2 ans, donc avant qu'elle rentre à l'école, je suis tombée enceinte de mon fils. Et donc, voilà, donc ça s'est enchaîné. Et c'est là où j'ai su, où j'ai vraiment connu la
déprime de la maison.
Du rôle d'une femme au foyer, avant même de parler de maman, là, juste d'une femme au foyer.
Ok. Alors justement, pendant cette période, cette première période où il y a eu la petite, où vous avez été maman et femme au foyer, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas déjà ce questionnement? Ou bien, est-ce qu'à ce moment, vous étiez épanouie, en fait, par votre décision?
C'était un choix. Donc oui, j'étais épanouie, c'est mignon, je suis avec mon bébé, tout va bien, voilà, c'est voilà, le coconine, les beaux parfums, les petits trucs de bébé, je suis au petit soin. Mais ayant fait des études, ayant travaillé, je sentis en fait que ma matière grise est devenue un peu blanche.
Oui.
Mon cerveau ne fonctionnait plus et j'avais beaucoup de mal avec ça.
Ok. Est-ce que vous en avez voulu à votre mari à ce moment-là? Pourquoi je vous pose la question? Parce que, en discutant avec beaucoup de femmes et d'hommes, certains hommes aussi, dont les femmes sont à la maison, pour une raison ou pour une autre, leur reprochent en quelque sorte le fait de sortir travailler. Avec cette phrase, au moins toi, tu sors de la maison. Même si tu vas au bureau, mais au moins, même si tu bosses, mais au moins, tu ne t'occupes pas de la maison, au moins, tu changes d'air. Alors que quand on va travailler, on ne change pas d'air, on va travailler. Et ça, on le dit quand on est raisonnable. mais quand on déprime, je peux le comprendre en tant que femme aussi, quand on déprime, on peut sortir ce genre de remarques. Est-ce que vous lui en avez voulu à ce moment-là?
C'est marrant parce que...
justement, Doha.
Non, c'est pas du tout ça. Moi, c'est l'inverse. parce que c'était un choix, donc c'était une décision qui a été prise, et oui, j'en étais convaincue. Donc, j'étais un peu dans le « allez, je vais aller jusqu'au bout de cette décision
ouais. ».
Donc, j'assume ma décision.
Donc,
au contraire, enfin, au moment où j'avais besoin d'aide, je suis tellement dans le « oui, ça a été fait, ça a été choisi, ça a été décidé » que je n'osais même pas demander d'aide. Et c'est ça le enfin, voilà, d'ailleurs, j'ai fait un burn-out parental par la suite. Et c'est ce truc de « oui, ça c'est une soubrasse qu'on a envie de « n'gro », c'est bien parfois « n'gro ».
Oui, on sort de l'énergie. Mais ça, c'était avant même l'arrivée du deuxième bébé ?
C'était avant l'arrivée du deuxième bébé.
Et pourtant, vraiment, vous avez décidé de faire les deux, voilà.
Bah, en fait, je suis sortie de ce qui s'est passé, voilà, du burn-out parental, et donc voilà. C'est là où je me suis dit, bon, là, on est capable d'avoir un deuxième. Il est Jabullah.
Ouais.
Voilà.
C'était une décision, tabarakallah, heureusement il est venu, il est en bonne santé, il est là. Mais à ce moment-là, finalement, maintenant avec un peu de recul, est-ce que c'était une sage décision ? Sortir d'un burn-out parental et enchaîner avec un autre bébé ?
Pour moi, oui. Parce qu'on est différents, et ça je le dis, et c'est bien d'en être conscient, de la différence de chacune de nous, de sa santé physique, de sa santé mentale, de... Est-ce qu'elle a de l'aide autour d'elle ? Est-ce qu'elle a appris à accepter de l'aide et à demander de l'aide ? Ça, c'est très important. Et moi, ça, je ne le faisais pas avant. J'avais du mal à demander de l'aide et à accepter de l'aide. Mais quand j'ai eu le déclic de, en fait, non, là, c'est toute la santé qui est en jeu.
Ouais.
Et pas juste la mienne, parce qu'il n'y a plus que moi dans l'histoire. Il y a aussi mon enfant. Là, c'était vraiment le déclic qui a tout changé.
Dans quel sens, justement ?
Bah, dans quel sens ? C'est que un burn-out, en fait, comment ça arrive ? Donc, c'est pas une dépression, c'est pas un baby blues, non. Ça fait partie de la famille du stress. C'est-à-dire que toute la charge mentale, tout l'épuisement que tu cumules petit à petit, à un moment, bah, ça explose.
Ça explose comment, justement ?
Voilà, et donc c'est un vrai déséquilibre entre ce qu'on vit, ce stress qu'on vit au quotidien, vraiment chronique, et les ressources qu'on met en place. Donc moi, j'avais fermé les portes sur toute ressource. Je suis la strong woman qui peut tout faire. Donc j'avais fermé les portes d'aide. Oui, c'est moi qui m'occupe du bébé. C'est moi qui peux tout faire. C'est moi qui... J'avais encore du mal. Je venais de sortir de la maternité, des points futurs. Et non, c'est moi qui porte mon bébé. C'est moi qui l'endorme la nuit, c'est moi qui me réveille le matin, c'est moi qui fais tout. Ne vous approchez pas de mon bébé. Et jour après jour, bah avec la charge mentale...
La fatigue, le manque de sommeil.
Ah oui, donc c'est là où tu te dis non. On s'oublie, et même les toutes petites tâches qui peuvent sembler banales, mais vraiment banales, pour nous c'est une montagne. On prend plus soin de nous, donc on n'a même plus envie de prendre de douche, par exemple. Les trucs, mais vraiment des choses qui sont banales. Préparer à manger nous-mêmes. Donc limite, tu fais les trucs machinalement, tu deviens un robot parce que tu survis, en même temps, tu es responsable d'un bébé.
Ouais, ouais.
Donc tu fais tout juste pour le maintenir ce bébé en vie, s'assurer qu'il est en sécurité et donner le peu d'affectif que tu peux.
Mais en même temps, Doha, alors à ce moment-là quand même, vous n'étiez pas au Maroc, vous étiez loin de votre famille, vous étiez dans un autre pays avec votre mari. Est-ce que quelqu'un s'est rendu... Et lui, j'imagine, il sort travailler, passe la journée dehors, etc. Donc, il ne peut pas être à 100% conscient de votre situation. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte de votre mal-être ?
Non. Parce qu'en plus de ça, en fait, je suis du genre à cacher mon mal-être. Donc, tu me vois, tout va bien. C'est le sourire, tout va bien. Et j'avais cette impression de je gère. Mais le jour où, en fait, ce qui était pour moi, non, c'est pas normal, c'est le prendre soin de moi, chose que je faisais avant. Ça, je ne le faisais plus. Et comme j'ai dit, même dans le basique du basique. Et c'est là où j'ai dit, non, c'est pas possible.
Il se passe quelque chose.
Ah oui, c'est pas possible. C'est pas normal, c'est pas possible. Mm. Donc, je suis rentrée, j'ai commencé à me renseigner. Au début, je suis partie sur une dépression. Je me suis dit, ah non, je fais une dépression, c'est pas... Et c'est là où j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui s'appelle burn-out parental.
Oui.
Je le savais, je savais avant ce que c'est qu'un burn-out professionnel, parce que j'étais dans les ressources humaines, mais je ne savais pas du tout le côté parental. Je ne le connaissais pas du tout.
Mm.
Donc c'est là où j'ai découvert, c'est là où j'ai commencé par mettre en place juste un tout petit rituel, mais vraiment qui a changé ma vie. Donc si ça pourrait aider les mamans ou les parents qui écoutent l'émission, c'est juste... 1 heure de marche. Je me rappelle, mon mari rentrait le soir, vers 18h. C'était ma pause à moi. Je sortais, je marchais pendant 1 heure. Je ne faisais rien du tout, juste marcher.
Vous avez demandé de l'aide à ce moment-là, pour mettre en place, justement, pour avoir ce déclic, mettre en place des petites choses qui vont vous aider comme ça, comme aide 1 heure de marche, ou bien vous l'avez fait toute seule?
Non, je l'avais fait toute seule. Quand j'ai compris ce que c'est qu'un burn-out parental et quand j'ai su que je n'étais pas normale.
Mm.
Et par contre, oui, j'aurais aimé, par exemple, ça, toutes ces informations, tout ça, le connaître avant même de tomber enceinte, avant même de devenir maman. D'où voilà ma reconversion professionnelle. Donc je me dis, vraiment, avant de devenir maman, il y a tout un manuel, on va dire, à connaître.
C'est ça. C'est ça. Il faut... Aujourd'hui, malheureusement, on ne prépare pas les jeunes couples à devenir un couple.
Ni à devenir couple, exactement.
Ni à devenir parents. Couple. Et on dit en fait que la parentalité s'apprend sur le tas. Il n'y a pas l'école de la parentalité. C'est vrai qu'il n'y a pas l'école de la parentalité. Ouais, Lekin, c'est vrai, parce que finalement, chaque enfant vient avec sa particularité, etc. On ne va pas venir, on va dire... exercer des principes généraux sur les enfants. Mais en même temps, la préparation, c'est peut-être dans le fait de se connaître d'abord.
C'est ça, exactement.
C'est d'abord se connaître soi et être consciente vis-à-vis de soi, vis-à-vis des signaux que sa santé mentale et physique peut nous envoyer, peut nous renvoyer.
Oui, oui.
Et je vous le dis par expérience aussi.
Oui, mais j'imagine. J'imagine. Donc oui, enfin, former et s'informer sur le. On vient chacun d'une famille différente, peut-être de pays différents, de cultures ou d'éducation différente. Chacun avec son sac à dos rempli ou à moitié plein, bref. Et on rentre dans le couple conjugal qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, on passe au couple parental qu'on ne connaît voire pas du tout. Et c'est là qu'on commence à découvrir, à déchiffrer. Alors, si on avait déjà l'information, si on savait déjà ce que c'est, si on savait déjà que oui, il y aura des difficultés, et c'est bien de demander de l'aide, et c'est bien de l'accepter. Ça, vraiment, je souligne ça. Parce qu'on est tellement dans les... j'étais tellement dans le « je suis forte, je peux tout faire ». Toute seule. Cet individualisme et cette force de la femme forte, cette image, il est en fin de compte que ça fait un résultat complètement. C'est pas le résultat escompté. Donc.
À quel moment, justement, Doha vous a dit allez, j'en fais mon affaire d'accompagner les mamans, les parents. À quel moment vous avez dit ça fait ? Je passe de la gestion des ressources humaines à la gestion des émotions des futurs parents.
Quand j'ai commencé à faire ma marche.
Oui, excellent. Comme quoi, quand on marche, et qu'on, c'est incroyable les idées qui peuvent venir. Je suis tout à fait d'accord.
Sortez, marchez.
Marchez et laissez les idées venir à vous.
Marcher. Mais vraiment, c'est une thérapie. Bon, oui, il y a la vraie thérapie, mais au moins, si on commence déjà par ça, c'est très, très bien. Donc, c'est en marchant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me sentir bien, à me reprendre en main. Et c'est là où je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai commencé à m'informer. Et c'est tout un monde. Cette parentalité, c'est waouh. Oui, il faut l'enseigner. Quand, quand on dit renseigner, quand tu as dit il n'y a pas d'école, c'est pas une voiture.
C'est ça. Et c'est pas un mode d'emploi, voilà. En fait.
Et c'est pas un mode, exactement, c'est pas un mode d'emploi, mais quand on a les principes, quand on a les infos, quand on sait ce qu'on peut faire, quand on a les outils, c'est déjà, on va dire, la moitié du chemin est faite.
Ouais.
Pas comme si, voilà.
Alors, justement, à travers votre formation, Doha, est-ce que vous avez dit, ah tiens, ça me parle, ah oui, ça, j'étais comme ça. Ah, c'est vrai que si j'avais su avant, j'aurais pu vivre ma maternité différemment.
Ah, mais complètement. En plus, c'est pas que j'ai l'impression, c'est même prouvé. Quand on devient parent, on reconnecte avec ce qu'on appelle actuellement l'enfant intérieur. Donc, on reconnecte avec nous quand on était enfant. Quand on emmène notre enfant à l'école, on reconnecte avec nous quand on était à l'école. Ça se trouve, notre enfant, il est super bien. Mais on lui transmet toute la peur que nous, on a eue avant. Et quand on n'est pas conscient de ça, on va lui bousiller la vie. Parce que c'est nous, c'est notre peur, c'est notre anxiété, c'est notre enfant à nous qui est en train de revivre encore cette douleur.
Alors, la formation, vous l'avez commencée pendant la deuxième grossesse ?
Oui, c'est ça.
Oui, donc vous l'avez vécu différemment, cette grossesse et cet accouchement ?
Complètement.
Ça a guéri, ça vous a guéri en fait, de la première expérience de maternité, guéri émotionnellement.
Oui. Et ça n'était pas, alors, guéri, pas complètement, mais c'était en cours.
Ouais.
Maintenant, je dis que c'était en cours, mais à l'époque, pour moi, oui, c'était top.
Ouais. C'était déjà
mais
top.
Voilà. Exactement. Ouais. Plus on avance, plus on se dit, oui, il reste encore cette petite couche. Il reste encore ça. En fait, c'est comme l'image de la dernière fois, je le disais avec une formatrice, c'est comme un oignon. Plus on enlève les couches, plus les couches qui sont vraiment au fond deviennent plus dures, plus épaisses.
Ouais.
Et ça pique aux yeux. Et c'est là où on se dit, oui, là, c'est vraiment le vrai travail.
Alors, justement, Doha Hassouni, aujourd'hui, ces jeunes femmes que vous accompagnez, lorsqu'elles viennent vous voir, est-ce qu'elles sont déjà mal ? Ou bien il y a aujourd'hui une prise de conscience d'anticiper sa maternité ?
Généralement, quand ça va déjà mal.
Yek.
Oui. Généralement, quand ça va déjà mal. Alors là, heureusement, de plus en plus, on sensibilise par rapport à la parentalité. Donc, il y a par exemple des ateliers qui se font déjà, les hôpitaux et tout. Donc, pendant la grossesse, il y a un suivi. Mais ça ne vient pas comme ça automatiquement. Voilà, ouais. J'aimerais bien savoir, ou là j'aimerais bien me former, ou là j'aimerais bien juste m'ouvrir sur ce qui m'attend. Généralement, c'est quand ça se passe mal qu'on vient pour soigner.
Et ça va mal en général, pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a une tendance qui ressort des différentes rencontres ?
Généralement, c'est le soutien émotionnel. Donc, c'est une maman, par exemple, qui, généralement, elle vient d'avoir son enfant. Donc, il y a déjà tout le baby blues, donc tout le dérèglement hormonal. Et puis, il y a aussi sa manière, elle, de vouloir faire, de vouloir éduquer. Et les deux familles, que ce soit la sienne ou la belle-famille, qui imposent certaines choses.
Justement, c'est toujours d'actualité.
Ah mais oui. Et franchement, je pense que ça va continuer. Peut-être que la dose ou l'intensité, elle est de moins en moins importante.
Ouais.
Mais ça existe toujours. Ça existe toujours.
Et ça joue beaucoup sur le moral. Ça joue sur le couple aussi.
Ça joue surtout parce que elle, voilà, enfin, quand la maman, par exemple, contredit ou elle dit ce qu'elle en pense de vive voix, voilà, non, c'est pas comme ça, voilà, je vais faire telle manière, le papa, donc le conjoint, se trouve aussi confronté à sa famille, à sa maman. C'est très délicat. Donc, il n'y a pas que le couple parental qui est mis devant ce défi, mais aussi le couple conjugal.
Exact, absolument. Alors, c'est cette période compliquée. En général, quand ça va mal, on a tendance à essayer de trouver un refuge. Et quand je parcours votre profil Instagram, je vois deux styles et deux looks complètement différents. Une partie où vous avez plutôt les cheveux couverts, une partie où vous avez les cheveux découverts.
Oui.
Est-ce que cette partie où vous avez les cheveux couverts, c'était la partie, le moment de votre vie où ça n'allait pas trop?
C'est le moment de ma vie où... Alors, est-ce que ça n'allait pas trop? Non, enfin, vraiment couvert et pas couvert, ça n'a pas forcément un lien.
Ça n'a pas un lien. Parce qu'on a tendance
Non, non.
parfois, quand ça va mal, d'aller chercher refuge dans la foi, la spiritualité.
Je le fais encore
Oui.
et c'est toujours présent. Mais non, ça a été dû à un voyage. Donc, on a fait le Hajj avec mes parents.
D'accord.
Et voilà. Donc, pour moi, c'était suite à ça.
Ouais.
Alors que, non, pas forcément. Voilà.
Ça a
Donc,
été difficile
c'était.
de convaincre l'entourage d'enlever ou là de l'accepter soi-même, de retirer le voile. C'est ouais.
C'est une décision qui est venue après 3 ans de rumination.
Donc ça prend du temps, c'est long.
Parce qu'au début, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est juste, ça ne va pas, donc j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est juste parce que je suis dans un pays où c'est de plus en plus difficile?
Quand vous étiez, parce que vous êtes en France.
C'est ça.
C'est ça.
Et sachant que je ne l'ai jamais porté quand j'étais au Maroc, c'est en venant en France que je l'avais porté. Et d'ailleurs, voilà, j'ai porté un turban. Et pour moi, c'est pas du tout
C'est
un voile, c'est pas du
un.
tout un vrai hijab. Voilà. Mais bon, c'est
Bien
chacun
sûr.
sa façon de voir. Et en fait, je me suis dit, quelque part, elle a rasé. Donc, soit je le fais comme il se doit, soit je reste pas entre les deux. Avec mon cou qui est découvert, avec. Donc c'était vraiment ça. Et puis je me suis dit, pour qui je fais tout ça finalement? Est-ce que je le fais vraiment par pure foi? Ou là je le fais parce que je l'ai mis juste après un événement dans ma vie et que je l'ai gardé et que je le garde encore parce que j'ai peur qu'on dise de moi telle ou telle chose. Voilà.
Il y a eu des critiques après, des remarques?
Il y a eu des remarques. Remarques comme ça, direct, face to face. Non.
Hein.
Après, ce qui se passe derrière notre dos,
Bien sûr, bien sûr, bien
ça
sûr.
c'est ingérable.
Pourquoi je vous pose la question? Parce que justement, c'est des histoires de vie et ça arrive à différentes personnes, justement, de porter, de se couvrir les cheveux après, à des femmes ensuite de décider de retirer. C'est pas évident parce qu'elles, ce qui freine, c'est comme vous dites, ce questionnement, justement. Est-ce que j'ai vraiment envie de le retirer? Comme de l'autre côté, est-ce que j'ai vraiment envie de le mettre en fait? Et donc, est-ce que vous, dans ce sens-là, vous avez parfois des personnes qui vous approchent sur les réseaux sociaux pour vous demander votre avis par rapport à ça? Vous demandez ce parcours, comment vous êtes passé de l'un à l'autre?
Pour moi, le parcours, surtout ce parcours, et tout parcours lié à la foi, tout parcours qui est vraiment très personnel, ça revient à la personne. Juste se demander, revenir à la source et se demander pourquoi je le ferais. Voilà, c'est tout. Est-ce que je le ferais pour rendre, parce que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un, ou là, je le fais parce que c'est moi? Et parce que enfin, c'est pour une divine, enfin, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour quelque chose qui est beaucoup plus fort que moi.
Ouais.
Et voilà, et c'est ma foi, finalement. Donc c'est tout. Et quand ça tient aux gens, c'est que ça ne vaut pas la peine. Voilà.
Alors, Doha
Authentique.
Hassouni, eh bien, merci infiniment, Doha Hassouni, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.